Alors, cette fois-ci, donc, je vais vous parler un peu de la visitation, alors, dans une perspective un peu particulière, comme on approche de la Pentecôte, c'est aussi comment s'ouvrir à l'Esprit-Saint. Alors, je ne sais pas quel est le texte que vous avez pris ce matin, si c'est celui de la visitation ou... Magnificat, très bien. Alors, ben, je vais commencer par lire le récit de la visitation, qui se conclut par le Magnificat, pour que vous repériez aussi différentes, donc vous y serez attentifs d'une manière particulière, différentes choses qui nous sont dites pendant ce texte d'évangile. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge et sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Voilà, alors, tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint est très présent dans ce récit de la visitation. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et alors, c'est ce qui fait que cette salutation n'est plus une salutation ordinaire, qu'il se passe quelque chose d'un peu exceptionnel, hein, puisque Élisabeth reconnaît la maternité divine de Marie. Alors, l'Esprit Saint, donc, il est présent en Élisabeth. Il était déjà présent aussi dans Jean-Baptiste, hein, qui reconnaît Jésus. Et dans l'évangile avant, donc, l'ange avait dit à Zacharie, il sera rempli de l'Esprit Saint en parlant de Jean-Baptiste. Voilà. Alors je me suis dit, tiens, cette halte spirituelle avant la Pentecôte, pour prendre ce mot-là, quel est l'écosystème qui va bien pour accueillir l'Esprit Saint? Alors donc, là, ce ne sera pas 3 choses, c'est 4 choses que je vais vous donner. 4 parties, donc. J'ai pensé à 4 éléments qui font que la colombe de l'Esprit Saint pourra venir se poser sur nous, si on peut dire, de manière imagée. Alors, vous avez peut-être déjà des petites idées sur ces 4 attitudes, ces 4 dispositions. La première, ce sera l'humilité. La deuxième, ce sera la foi. La troisième, la louange. Et la quatrième, la charité fraternelle. Donc, 4 éléments. Donc, si vous voulez bien vivre la Pentecôte, il n'y a plus qu'à travailler à ça. Après, on n'oblige pas l'Esprit Saint, hein, il vient s'il veut, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'il faut se disposer, hein. On les retrouve d'une certaine manière aussi au Cénacle, hein, quand les apôtres sont autour de la Sainte Vierge, pour accueillir l'Esprit Saint. Donc, 4 conditions. L'humilité, la foi, la louange, la charité. Alors, c'est aussi un petit peu une spirale, hein, ce que je vais vous dire, parce que c'est aussi l'Esprit Saint qui nous aide à louer, c'est aussi l'Esprit Saint qui nous donne de pratiquer la charité, mais voilà, il suffit d'entrer dans cette dynamique. Donc, je commence par l'humilité. Alors, l'humilité, et ça, c'est présent dans cette scène aussi, c'est un mot qui apparaît deux fois dans le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante, et puis après, il élève les humbles. Et alors, ça, je pense que c'est une première attitude, déjà assez générale vis-à-vis de l'Esprit-Saint. Si on pense tout savoir, bon, on n'a pas besoin de l'Esprit-Saint. Hein. L'Esprit-Saint, une manière de se savoir petit qui fait que ben, on sera plus réceptif à l'Esprit-Saint. Alors, peut-être que Frère Jean-Gabriel vous a parlé des Anawims. Allez, oh, enfin, c'est les pauvres hein, qui attendaient le Messie. Alors, pas simplement pauvres matériellement, mais pauvres spirituellement dans cette idée de l'humilité. Et ça, c'est vraiment une attitude qu'on retrouve. Mais d'ailleurs, un verset qu'on retrouve à diverses reprises, hein, de « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Alors, on le retrouve chez saint Jacques, mais aussi, je crois, chez saint Pierre. On le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Mais pour accueillir l'Esprit-Saint, il y a besoin de cette humilité. Bon, on n'est jamais des modèles d'humilité, mais quand même cette attitude où on n'a pas cette forme d'arrogance vis-à-vis de Dieu. Je pense que ça, c'est une première condition. Le psaume 130 exprime bien ça. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Donc c'est cette attitude d'enfance, cette attitude d'enfance spirituelle, on pourrait dire. Hein. C'est, le petit, ce n'est pas non plus l'imbécile, si je puis dire. C'est plutôt cette disposition intérieure où, voilà, on sait s'émerveiller. Dans ces petits, il pourrait y avoir le ravi de la crèche, hein, celui qui s'émerveille. Quelquefois, quand on vieillit, on perd cette capacité d'émerveillement, on est un peu blasé, etc. Mais voilà, cette humilité aussi, c'est celui qui accepte de se laisser surprendre par le bon Dieu. Alors, cette humilité, il y a une autre composante, c'est échapper à une forme de rationalisme. Si vous êtes des rationalistes, vous êtes mal parti pour accueillir l'Esprit-Saint. Alors, ça revient à deux reprises dans l'Évangile, mais Saint-Luc, je vous dis celle de la part de Saint-Luc, par exemple. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce qu'il dit justement sous l'action de l'Esprit-Saint ? Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. C'est les sages et les savants. Alors, il peut y avoir des grands savants qui sont des enfants du point de vue spirituel, hein, mais ceux qui prétendent tout savoir, là, ils sont mal partis pour accueillir l'Esprit-Saint. C'est aussi le savant, c'est aussi celui qui veut tout faire rentrer dans sa tête. Vous vous rappelez, je crois que c'est saint Augustin qui a cette image et il voit un enfant sur le bord de la mer et puis avec un coquillage, il a fait un trou. Il veut mettre la mer dans son trou de sable. Justement, ce que le bon Dieu veut lui faire comprendre, non, tu ne feras pas rentrer le mystère de Dieu dans ta tête. Dieu te dépassera toujours. Hein, donc, il y a une forme de rationalisme où on voudrait quelque part maîtriser les choses. Et ce n'est pas très confortable pour nous, parce que si on veut laisser l'Esprit-Saint, à la fois il y a une certaine prudence, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et en même temps, c'est, si on veut tout maîtriser, tout contrôler, l'Esprit-Saint ne pourra pas travailler. Je pense juste à une chose qui me traverse l'esprit. Bon, cette année c'est assez connu, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont débarqué pour la messe du mercredi des cendres dans beaucoup d'endroits. Alors, aidé par les réseaux sociaux, mais peu importe. Ça, ce n'était pas un plan pastoral préétabli. Mais comment on accueille ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire baptiser le lendemain, c'est pas ça. Mais comment on accueille ces choses? Est-ce que l'Esprit Saint s'est servi de ça aussi pour travailler? Alors, nous, comment on accueille ça? Et c'était pas du tout un plan pastoral préétabli, ça. Mais alors, du coup, voilà, si on est rationaliste, ben, on dit, ben non, ça rentre pas dans mon programme, donc je. Mais non, c'est lui qui commande, c'est pas nous, c'est l'Esprit Saint qui commande. Voilà, alors, c'est une autre composante, on pourrait dire, de l'humilité, c'est d'accepter que le Dieu, il raisonne pas forcément comme nous. Voilà. Et puis, un troisième aspect de l'humilité, ça serait de se laisser guider. Et on voit Marie, au moment de l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Hein. On voit cette docilité de Marie qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Saint Paul, quand il parle aux Philippiens, à un moment, voilà ce qu'il dit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire que, voilà, on supplie le bon Dieu d'intervenir, mais on ne lui dit pas comment il doit faire. On se laisse guider, on essaie d'être attentif à ce qu'il va faire, mais Dieu, il va intervenir à sa manière. Notre fondateur disait que la Sainte Vierge, quelquefois, elle n'aimait pas trop les prières où on lui dise exactement ce qu'elle devait faire. Hein? Par exemple, quelqu'un qui disait « Oui, il faut me guérir tel nerf qui commande telle articulation, tout ça. » Mais non, je suis malade, viens. Mais pas expliquer au bon Dieu par le menu détail ce qu'il doit faire. Et alors ça, c'est aussi cette forme d'humilité en acceptant, voilà, je suivrai ce que le Seigneur me demandera, même si je suis un petit peu surpris. Voilà, ça c'était la première composante, si on peut dire, pour accueillir l'Esprit Saint, c'est une attitude d'humilité. Une deuxième attitude, c'est la foi. Et ça apparaît sur les lèvres d'Élisabeth. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. On ne lui a pas dit « Heureuse es-tu d'avoir vu l'ange Gabriel, j'aurais bien aimé être à ta place. » Non, « Heureuse es-tu toi qui as cru. » Et ça, du coup, cette démarche de foi, elle est essentielle. Vous savez que la foi, c'est la réponse à Dieu qui se révèle. Il y a un beau document du Concile Vatican II, Dei Verbum, qui parle de cette foi. Donc, il y a Dieu qui se révèle, et nous, notre attitude, c'est de croire ce qu'il nous dit. Et c'est important, cette attitude, on la retrouve dans la messe. La messe, il y a la parole de Dieu qui est proclamée, et après, il y a le credo, je crois. C'est vraiment ce dialogue, Dieu qui se révèle et nous qui acceptons de croire ce que Dieu nous dit. Alors, comme vous avez étudié dans le détail le Magnificat ce matin, certainement, frère Jean-Gabriel vous a montré que c'est, et vous allez dans la marge de vos Bibles, il y a plein de citations, hein, Marie... reprend des tas de passages de l'Ancien Testament dans son Magnificat. Et voilà ce qu'en disait le cardinal Lustiger. Nous aurions tort de comprendre ces mots qui nous sont si familiers, il parle du Magnificat, comme une sorte d'improvisation où la Vierge Marie ferait des confidences sur son état d'esprit. Si vous regardez attentivement votre Bible, vous voyez dans la marge une colonne entière de références, de citations de l'Ancien Testament. Le langage du Magnificat est totalement biblique. Si vous en aviez le temps, il vaudrait la peine de relire dans la Bible ces différents passages et de découvrir pourquoi la Vierge Marie a retenu ces mots qui ne sont pas d'elle, mais qui ont nourri sa prière. C'est elle qui parle d'une manière très personnelle. Et pourtant, c'est la parole qui est sa parole.